Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, Cinérama. J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Nous allons passer une demi-heure à parler de cinéma et puis nous allons aussi écouter des extraits de films à l'occasion d'un blind test autour de la filmographie de Michael Mann, parce que toi, Manu, tu as vu son dernier film.
Ferrari, le film est diffusé sur Prime à partir du 8 mars.
Quant à toi, Guillaume, c'est un film d'un réalisateur britannique.
Oui, le dernier film de Terence Davies, Les carnets de Siegfried.
Et puis toi, c'est un film allemand, Sophia ?
Absolument, qui se déroule dans une école. Il s'agit de la salle des profs.
Mais nous allons commencer avec une comédie française. Après un burn-out, Maxime va à un stage de bien-être entouré par des êtres qui ne lui ressemblent pas du tout. C'est 14 jours pour aller mieux.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinérama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
J'en peux plus de tes humeurs.
C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer.
Bah, c'est super, prends-le avec toi.
Ah mais super idée!
Chaque semaine compte sa comédie française. Hein. C'est un genre qu'affectionne particulièrement l'industrie cinématographique. On y place des acteurs connus, tiens au hasard un Didier Bourdon et un Christian Clavier. Et on choisit un thème. Alors avec 14 jours pour aller mieux, Édouard Pluvieux, on oublie le casting de star. Il y a bien Maxime Gasteuil, mais il s'agit pour l'humoriste du Sud-Ouest de son premier vrai grand rôle au cinéma. Il est au scénario d'ailleurs avec le réalisateur. Un scénario bâti sur une expérience qu'a eu Maxime Gasteuil en participant à un stage de bien-être. C'est le seul choix donné à celui qui s'appelle Maxime, justement, un commercial en affaire avec son beau-père qui frise le burn-out. Sa future femme l'envoie dans un stage de 14 jours à la campagne. Il sera accompagné de son beau-frère, un ahuri de première.
Je te préviens, je tiendrai pas 4 jours, hein. Désolé.
Ah, on t'a dit 4 jours, c'est 14.
Allez, ciao.
Je vais aller fouiller dans vos tripes pour faire bouger vos énergies.
Faut qu'on me touche le pédo.
Toi, t'es dans la vérité, tu veux plus rien me cacher.
Faut que j'aille faire caca.
Faut trier quand même, hein. T'es pas obligé de tout me dire.
Ce type de comédie, on le devine, repose sur les contraires. Hein. Notre héros va être plongé dans un milieu qui n'est pas le sien, avec des individus très éloignés de lui, chacun étant défini par un gros trait. Alors il y a par exemple la frigide, la bourgeoise, l'homosexuel refoulé, le zonard, l'introverti. Maxime va tout faire, au début, hein, pour s'éviter 14 jours de confidence. Car si on ne comprend pas l'objet thérapeutique de ce stage de bien-être, celle qui le mène, une Zabou Breitman, alors vraiment rayonnante, estime qu'elle a un don d'extra lucide et qu'on ne peut pas lui mentir, ce qui force tout le monde à lui dire la vérité. Pratique, hein. Elle ne se prive pas d'être cinglante et ses saillies verbales sont les meilleurs moments de cette comédie qui fonctionne un peu comme un sketch qui s'étire.
Alors t'aimes bien la nourriture végane?
Ouais, tu vois, j'ai décidé de vivre comme une chèvre. Puis après, je vais aller me faire tirer le lait pour faire des yaourts bio.
Comme il s'agit quand même d'un feel-good movie, durant ce stage, eh bien, Maxime va apprendre beaucoup sur lui, va se livrer aux autres, principalement à ceux qu'il aime. Il en résulte un happy end très convenu. Alors entre-temps, on aura ri de quelques situations, hein, il ne faut pas non plus tout jeter, mais une fois le générique, eh bien, on ne rêve que d'une chose, une comédie avec comme personnage central celui de Zabou Breitman, où la méchanceté est reine et tire le film vers le haut. 14 jours pour aller mieux est en salle depuis le 6 mars. Il s'agit du dernier film de Terence Davis qui s'attarde sur la trajectoire du poète homosexuel Siegfried Sassoon, héros de la Première Guerre mondiale. Nous parlons des carnets de Siegfried.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Ladies and gentlemen, Mr. Siegfried Sassoon, one of our greatest poets.
Le discret Terence Davis hein, a tiré sa révérence en fin d'année dernière, mais il laisse derrière lui donc un ultime film, Les carnets de Siegfried, consacré au célèbre poète Siegfried Sassoon. Alors que le titre en anglais est beaucoup plus généraliste et en même temps plus orienté hein, sur sa reconversion tardive, puisque le film s'appelle Bénédiction, celui français témoigne de la méconnaissance du public hexagonal pour Sassoon, puisqu'on nous oriente vers une clarification. Hein. Les carnets soulignent tout de suite l'activité poétique du héros dépaysé, comme les carnets de voyage de Walt Walter Salles, et de Siegfried pour mettre un focus sur ce personnage sans nommer son nom de famille, puisqu'il devrait en théorie pas parler aux Français. Et pourtant, si vous êtes de ma génération et que vous aimez tout simplement l'aventure, il y a eu un moyen de croiser cet homme hors du commun et sans avoir fréquenté le rayon anglais d'une bibliothèque. Parce que Siegfried Sassoon est l'une des personnalités marquantes que le jeune Indiana Jones rencontrera lors de sa traversée de la Première Guerre mondiale dans la série du même nom, George Lucas ayant retenu son nom comme étant l'un des plus importants de la première partie du XXe siècle.
Wilfred was killed just a week before the war ended. I'd give everything I possessed to have him stay just one more hour.
Et forcément, on pense fort à ses aventures d'une jeune Indiana Jones dès le début du film, puisqu'il alterne d'emblée entre la présentation de Siegfried et des images d'archives montrant l'Europe en train de sombrer dans l'horreur de la guerre des Dares. Alors ce moyen de recontextualiser l'éprouvant début du XXe siècle interroge tout de suite le spectateur sur le spectacle à venir, car la reconstitution fictionnelle de la vie de Sassoon est contrebalancée par ces images réelles qui nous rappellent que nous n'assistons pas à un simple film en costume ou historique, mais que tout ce que nous allons voir parle d'une époque déchirée entre modernité et fin d'un monde, poésie et barbarie, espoir et misère. Bref, tout ce qui semble dicter le tournant de notre époque et dont Terence Davis semble bien conscient. Son œuvre testamentaire s'éloigne d'entrée de la représentation figée et nous interpelle sur l'Europe et le monde d'aujourd'hui qui voit ressurgir la même barbarie mais qui manque cruellement de regard critique et intellectuel noble comme celui de Sassoon et mis au service de sa plume magnifique. Car c'est tout l'intérêt de s'intéresser à une figure comme Sassoon qui n'est pas qu'un jeune pris dans l'explosion programmée de l'Europe en 1914, mais est un poète qui saura parler de ce conflit avec une licence artistique qui va nuancer certains discours. Alors décoré pour sa bravoure sur le front occidental, il devient l'un des principaux poètes de la Première Guerre mondiale, décrivant à la fois les horreurs des tranchées et faisant un portrait satirique des prétentions irréalistes de ceux qui, selon Sassoon, étaient responsables d'une guerre alimentée par un excès de patriotisme. Précisons, lui qui s'était engagé en partie à cause de son patriotisme. Donc Sassoon a particulièrement dérangé lorsqu'il a protesté contre la poursuite de la guerre dans sa déclaration du soldat de 1917 qui aboutit à son admission dans un hôpital psychiatrique militaire. Mais cette évolution, de son point de vue, ne l'empêche pas d'être un homme remarquable sur le terrain et il se distingue par sa bravoure qui n'a d'égal que la crudité de ses écrits qui cherche à décrire sans phare tout ce qu'il a l'occasion de voir et qui lui vaudra cet arrêt imposé par les autorités militaires qui lui diagnostiqueront ce qu'on appellera bien plus tard le trouble du stress post-traumatique.
You must redeem my life. Most people live for the moment, you live for eternity.
La mise en scène de Terence Davis va tenter de rendre concret cet habile mélange à la base littéraire entre douceur de la savante formulation des mots et dureté des faits et de l'histoire. Alors comme le dit Siegfried à Wilfrid Owen, il faut parler directement et non pas en empruntant la voix de quelqu'un d'autre. Car oui, même s'il est forcément question de Sassoon dans ce film, il est également question, chronologie de l'internement de Sassoon oblige, de sa relation avec Wilfrid Owen, jeune homme qui sera grandement influencé par ces échanges et qui deviendra l'un des plus grands poètes, lui aussi, de la Première Guerre mondiale, avant de malheureusement mourir en 1918, une semaine seulement avant l'armistice. Alors, on le voit, si le spectre de la mort plane sur ce film, avec ses histoires tragiques, avec les disparitions récentes de Terence Davis et aussi de Julian Sand, qui signe l'un de ses derniers films à apparaître sur grand écran, on ne pourrait trop que vous recommander d'aller voir Ces carnets de Siegfried, déjà pour l'aspect historique et puis ensuite parce que c'est un beau film qui parle aussi malheureusement de nous, d'aujourd'hui et de l'Europe.
Eh bien, Les carnets de Siegfried sont en salle depuis le 6 mars. Ferrari, c'est une marque légendaire, réputée dans le monde du luxe, évidemment. Ferrari, pour son concepteur, c'est avant tout la Scuderia, une équipe de course qui n'a jamais manqué un engagement dans le championnat de Formule 1 depuis 1950 et qui, de ce fait, est l'écurie la plus titrée. Et alors que des constructeurs font des courses pour vendre des voitures, Enzo Ferrari, lui, a fait le contraire. Ces voitures que les riches conduisent lui ont permis de faire courir des bolides de course. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que nous allons parler de Ferrari, film de Michael Mann.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner.
9 ans après Hacker, hein, Michael Mann revient en pleine possession de ses moyens avec l'un de ses plus beaux films, l'un de ses plus épurés et émouvants, préférant miser sur une sobriété inhabituelle, laissant partiellement de côté sa virtuosité graphique, son côté esthète de la surface, sacrifiant parfois ses récits et personnages à la seule puissance abstraite de sa mise en scène. Alors il s'empare d'un genre très prisé depuis quelques années, hein, qui a une fâcheuse tendance, moi, à me rebuter personnellement, c'est le biopic, surtout quand il est envisagé sous l'angle de la géographie. Alors le projet de Michael Mann est tout autre, hein, déjouant tous les écueils inhérents au genre, hein, et en premier lieu celui d'édifier un personnage au rang de héros national. Son Ferrari est envisagé comme une figure tragique dans la droite lignée des grands solitaires de son cinéma, et notamment le solitaire, hein, qui est interprété par James Caan. Alors s'éloignant sans doute de la réalité, Michael Mann a construit un personnage qui lui est proche, un artiste en perte de vitesse. Personne ne lui reprochera tant le nom de Ferrari est finalement associé davantage à une marque qu'à une célébrité.
Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Suis-je un athlète ? Ou un compétiteur ?
Pour cela, Michael Mann n'aborde qu'un fragment de la vie du coureur automobile, situant le récit en 1957, année où Ferrari mise sur une victoire dans la course mythique des Mille Miglia pour relancer sa marque légendaire face à son grand rival Maserati. Alors son entreprise bat de l'aile, hein, tout comme son couple depuis la mort prématurée de son fils Enzo. Ses rapports avec sa femme, cofondatrice de l'entreprise Ferrari, sont de plus en plus tendus. Cette crise s'accentue lorsqu'elle découvre que son mari a une double vie, non seulement une liaison avec une jeune femme, mais aussi un fils illégitime. À la grande frustration de ceux qui attendaient un grand spectacle de vrombissement et de tôle froissée, c'est cet aspect mélodramatique qui demeure le cœur du sujet d'un film intime, d'une grande mélancolie, à l'émotion à fleur de peau, mais toujours contenue derrière l'apparente froideur du style visuel, qui ne cherche jamais les pattes ni l'adhésion du spectateur. Alors il ne met en scène que deux courses d'ailleurs, remarquablement réalisées, mais sans esbrouf ni effet pyrotechnique. Il s'en tient à un filmage rigoureux, dénué de tout affect, prenant le genre un peu à côté, alors refusant ainsi l'immersion et la nervosité des récents Le Mans 66 ou Rush. Il aborde même ce sport comme un anti-spectacle morbide, se terminant alors dans les deux cas par des accidents mortels, dont un massacre assez traumatisant. À se demander même si Michael Mann ne cultive pas une phobie mortifère pour les voitures et puis la vitesse. Alors, ce qui n'est pas le cas parce qu'il en a souvent filmé quand même dans sa carrière et il a même une fascination pour ça. Mais là, peut-être qu'il est davantage, je dirais, un peu hanté par la mort, en fait.
Enzo, tu es au bord de la faillite.
Comment ça se fait ?
Tu dépenses plus que tu gagnes.
Alors je fais quoi ?
Remporte les Mille Miglia, Enzo. Ou tu devras mettre la clé sous la porte.
C'est une arme pointée sur nos têtes. Tu devrais me céder le contrôle de tes actions. Je dois avoir toutes les cartes en main.
Eh bien, j'ai la moitié des cartes en main.
Dans ce grand film sur le deuil d'un homme tiraillé entre deux vies, entre deux femmes, magnifiquement interprété par Penelope Cruz et Shailene Woodley, Michael Mann réussit la fusion entre deux écoles de cinéma, celle des grands classiques hollywoodiens et celle de la modernité européenne, très présente dans le cinéma italien des années 60. Alors Ferrari, c'est un peu la rencontre entre John Ford et Michelangelo Antonioni, de l'évidence d'une réalisation qui sait prendre son temps, cadrer l'espace et raconter une histoire simple, à un désir plus sensible de l'inscrire dans un espace plus abstrait, permettant ainsi de donner corps à un personnage à la sensibilité européenne de nature quasi existentialiste. Alors figé de prime abord, artificiellement vieilli avec des postiches, Adam Driver ne convainc pas au début. Et puis son jeu s'assouplit, s'accorde avec la forme faussement ascétique, il en devient même très touchant, à l'image d'une séquence qui est splendide, où il explique à son fils illégitime la fabrication d'une de ses voitures, la mécanique.
Nous sommes tous des coureurs. C'est notre passion mortelle. Notre terrible joie.
Tu penses pouvoir revenir bientôt ?
Je ne peux rester loin de toi.
Tu m'as promis qu'il n'allait pas mourir.
Le père était dans le déni total.
Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace.
au même moment.
Enzo. Va leur montrer qui est le plus fort.
La seule réserve que moi je pourrais émettre réside dans le fait que la langue officielle du film est donc l'anglais, sacrilège pour une œuvre située en Italie avec des protagonistes italiens, et c'est surtout les accents qui sont parfois un peu difficiles. Alors la critique est légitime en 2024, mais en même temps le débat reste ouvert. Michael Mann est un vrai cinéaste américain, dans le sens le plus noble du terme, un peu à l'ancienne, qui aurait eu quand même beaucoup de mal à diriger des comédiens italiens ne connaissant pas la langue. Donc c'est un peu aussi un faux débat. Et puis dans l'histoire, la plupart de beaucoup de grands films américains situés en Europe étaient en langue anglaise en fait.
Certes, mais il y a Soderbergh qui a fait son Che en espagnol, par ailleurs.
Oui, mais il devait peut-être maîtriser l'espagnol, ce qui n'est certainement pas le cas de Michael Mann pour l'italien. Enfin bon, voilà, ça c'est un débat qui reste ouvert. Mais la qualité la plus précieuse de Ferrari est liée à la nature même du genre. À aucun moment, moi j'ai vraiment l'impression que j'ai eue, nous avons l'impression justement d'assister à un biopic. Michael Mann parvenant à nous faire oublier dès les premières images hypnotiques le caractère historique de l'entreprise. Il réinvente un personnage magnifique sous nos yeux et signe un drame tourmenté et crépusculaire d'une très grande tristesse dont le seul regret est de ne pas découvrir cette splendeur dans des conditions qu'elle mérite, la salle de cinéma, alors que le film est sorti quand même dans pas mal de pays, dont la Belgique et la Suisse.
Oui, et pas en France, mais en fait, il y a un petit désamour quand même du sport automobile en France, ce qui pourrait expliquer peut-être la frilosité des distributeurs. Alors, j'ai vu ce film, j'apprécie énormément la course automobile et je connais un peu l'histoire de Ferrari. C'est un film qui est intéressant, mais comme tu le dis, il éloigne un peu la course automobile pour s'intéresser au deuil. Je trouve qu'il s'appesantit alors beaucoup trop, parfois avec des plans qui ont une durée, mais qui pour moi me semblent interminables.
Ah, moi j'aime justement la dilatation du temps dans le film.
Ouais, mais
c'est très Michael Mann ça. Et justement, et je pense que c'est un reproche qu'on pouvait faire d'ailleurs à quelqu'un comme Antonioni. Et je pense qu'il lui rend hommage dans le film en fait. Il ne se situe pas en Italie par hasard. Il s'est dit tiens, je vais faire un film en Italie et peut-être que c'est une façon pour moi de rendre un peu un hommage au cinéaste que j'ai aimé. Faut se les farcir aussi, l'Aventura. Tu as des plans très très longs.
Oui. Voilà. Non, mais je peux le concevoir. Mais on comprend en plus que c'est sur le deuil puisqu'ils vont sur la tombe de l'enfant. Enfin, je veux dire, il y a tout ça qu'on comprend et en plus, il fait durer le plan. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est le côté qui m'a semblé un peu maniériste. Enfin, voilà. Que j'ai pas apprécié, mais sinon, effectivement, on en apprend pas mal sur d'ailleurs Enzo Ferrari, qui est une grande figure du sport automobile. Alors, il se trouve que le petit garçon illégitime, lui, a commenté ce qui pouvait être vrai, pas vrai du film. Et globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont avérées.
Oui, je pense. Et puis, Michael Mann était journaliste et il vient du documentaire. Et donc, souvent, ces films qui ont l'air très esthétisants sont très. Il fait beaucoup de recherches, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont très justes d'un point de vue historique. Ce qui ne paraît pas des fois parce que les films ont l'air spectaculaires, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches en amont, en fait.
Alors, ce film donc, qui est sur Prime Video nous donne l'occasion de jouer à un blind test autour de la filmographie de Michael Mann. Ce sont 5 extraits. Il faut évidemment deviner les titres. Premier extrait.
C'est le seul responsable et c'est toi qui vas raquer.
Tu lui réponds que sa chiotte, il peut aussi se la foutre dans le cul.
Arrêtez, c'est mon patron.
Et après ?
J'en ai besoin de ce job.
Ça, c'est ce que tu crois.
T'es toujours là, je te parle. Max !
Il te filera pas un rond.
Qui c'est ?
Albert Ricardo, adjoint du procureur, client de ce taxi, et je vais te balancer au syndicat.
Doucement, on s'excite pas.
On s'excite pas ? Comment tu veux que je garde mon calme ? T'es en train d'essayer d'escroquer un travailleur. Tu sais pertinemment que ton assurance couvrira les frais, t'es en tout risque, t'auras pas un rond à sortir. Alors c'est quoi le but de la manœuvre, tête de nœud ?
Écoutez, j'essayais seulement...
C'est à lui qu'il faut le dire. Dis à ton boss que c'est un gros con. Vas-y.
T'es un gros con.
Alors, c'est trouvé.
C'est Collatéral.
Oui, avec Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, un chauffeur de taxi, un tueur implacable, 5 cibles à éliminer, des agents des stupes et une équipe du FBI. C'est un film de 2004, 1,4 million d'entrées en France. Deuxième extrait pour deviner donc un titre de Michael Mann.
Pourquoi je signerai ?
Pourquoi ? Par reconnaissance envers le substitut du procureur qui vous accorde une permission.
Ce document, vous et le substitut, je vous suggère de vous le carrer dans le cul.
Je vous demande pardon ?
Vous me demandez pardon ? Je vous insulte. Pourquoi pardon ? Moi, je m'excuse pas.
Ne croyez pas que vous allez...
Vous utilisez mes compétences. Je résous votre souci de trading en bourse. Et tout ça pour une perme de 2 semaines, c'est une blague ? Avec une attaque aussi complexe que ça, combien de chances vous avez de mener l'enquête à terme sans moi ? 0.
Je ne suis pas en train de négocier avec vous.
Ben moi si. C'est moi que vous voulez. Bon, eh bien, transmettez au-dessus. Mon assistance doit conduire à l'identification et à la capture de ce gars que vous voulez choper. Je veux qu'on commue ma peine. Je reviens bredouille, vous me remettez direct au trou. C'est la clause à modifier.
Et le deal est passé et c'est trouvé.
Et c'est Hacker.
Oui. Film de 2015, qui a été un four, hein, 144 000 entrées en France. Un expert du gouvernement chinois doit collaborer avec le FBI après qu'une centrale nucléaire ait été hackée, mais il demande eh bien, qu'un ancien de ses colocataires, quand il était au MIT, sorte de prison, car il serait le seul à pouvoir trouver le pirate coupable de cette action. Et on doit le dire, ils y parviennent. Allez, troisième extrait de ce blind test consacré à Michael Mann.
T'as l'intention de replonger ? Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui les connaît volontairement pour retourner au mitard. T'es pareil ?
T'as pas dû en voir beaucoup des paumés de ce genre.
J'en vois de toutes les couleurs.
Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine ?
Non, sûrement pas.
Alors ? La tôle, moi j'y replongerai pas.
Alors raccroche une fois pour toutes.
Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire. T'essaies d'arrêter les mecs comme moi.
C'était facile. Ça a été trouvé.
C'est Hit.
Oui, film de 1995 avec Robert De Niro et Al Pacino dont nous entendons les voix françaises. Confrontation de deux personnages. Il y en a un qui est chef d'équipe de braqueurs professionnels et l'autre qui est lieutenant de police. Et les deux se livrent à une lutte à distance et voient leur vie privée et professionnelle se lier inéluctablement. 1,4 million d'entrées en France. Quatrième extrait.
Expliquez au major qu'il n'a rien à craindre de ce général marquis de Montcalm, de toute manière, et n'a donc guère besoin d'une milice coloniale, parce que les Français sont fort peu portés par nature à la guerre.
Ils préfèrent s'adonner aux joies de la table et du sexe que d'aller se battre.
Mon général, puis-je vous demander si vous avez des nouvelles des filles du colonel Monroe que je devais retrouver à Albany pour les escorter jusqu'à Fort William?
Toi, là-bas, comment Monroe t'appelle-t-il? L'Écossais vous a envoyé un de ses alliés Mohawks pour vous servir de guide.
Trouvé.
C'est le dernier des Mohicans.
Oui, film de 1992, adaptation cinématographique du roman du même nom. Alors que la guerre fait rage entre Français et Anglais pour s'approprier les terres des Indiens, trois hommes acceptent d'escorter les deux sœurs jusqu'à leur père. 1,2 million d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test. Nous cherchons un titre de film de Michael Mann.
À ceux qui seraient venus ici aujourd'hui pour nous entendre leur dire, comme certains pasteurs noirs, que les choses iront mieux demain, que nous triompherons un jour. À cela, je dis qu'ils se sont trompés en venant ici. Car jamais les choses ne s'amélioreront si vous ne les prenez pas en main.
Jamais.
À ceux qui croient que vous êtes venus ici pour nous entendre leur dire qu'il faut tendre l'autre joue face à la brutalité des Blancs et à ce système injuste qui est en place en Amérique aujourd'hui, à ceux qui croient que nous allons leur dire qu'en sortant d'ici, il faudra aller mendier une place à la table des Blancs, à cela, je répète qu'ils se sont trompés.
Trouvé.
Et c'est donc Ali.
Oui, film de 2001 avec Will Smith, la personnalité complexe d'un champion, Cassius Clay, soit Mohamed Ali. Le film retrace l'engagement de l'afro-américain aux côtés du mouvement Nation of Islam et ses relations avec les militants des droits de l'homme Malcolm X. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Michael Mann, puisque nous parlions de Ferrari. Et petite pause musicale, on va utiliser un morceau de Calexico que l'on entend dans Collateral. On se fait plaisir. Une série de vols a lieu en salle des profs. Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Et très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Nous parlons de la salle des profs.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Ja, bitte. Hallo, alle zusammen. Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen.
Dans son quatrième long métrage, premier à sortir en France en revanche sur nos écrans, le réalisateur allemand Ilker Çatak nous fait entrer dans un huis clos, cadré au format presque carré, 1,33, resserré et oppressant, qui est en lice aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Alors en Allemagne, le film a déjà battu des records d'entrée, plus de 300 000 spectateurs en quelques mois, et s'est vu récompensé plusieurs fois déjà, en remportant notamment 5 Lola, ce qui est en quelque sorte l'équivalent germanique de nos Césars. En surface, le film s'intéresse à une jeune professeure, Frau Novak, Madame Novak, prof de maths et de sport, qui intègre un nouveau collège où des vols sont commis. Ces délits vont être à l'origine d'une succession d'événements à la chaîne, beaucoup plus importants que les larcins initiaux. L'enseignante se met en tête de protéger à tout prix ses élèves et va commettre une action pour tenter de révéler la vérité et donc de débusquer le ou la véritable coupable dans le but de soulever les suspicions sur ses propres élèves, sur l'un d'entre eux que tout accuse particulièrement. C'est cette action, cette quête de vérité par l'enquête individuelle qui va avoir d'immenses répercussions. Les vols cachent d'autres éléments, l'affaire se mêle d'accusations, de soupçons, tout un climat de paranoïa et de faux-semblants, mais aussi de racisme et de harcèlement s'installe dans l'école. Alors qu'elle explique à ses élèves en cours de maths la différence entre preuve et assomption, ses preuves à elle sont réfutées. L'humain s'avère plus complexe que des axiomes scientifiques. Le dialogue à ce stade n'existe plus et comme le dit en interview le réalisateur, on ne pense plus qu'à avoir raison, ça se passe plus largement dans le monde entier et notamment sur les réseaux sociaux. Être du bon côté prime, entre cancel culture et fake news, l'école s'illustre comme un microcosme idéal pour représenter au mieux les dérives et fractures de la société. Opinions et croyances s'opposent au savoir et connaissances. Dès la première séquence, deux élèves sont interrogés par le corps enseignant. Ils doivent dénoncer un camarade de leur classe qui est soupçonné de vol. Très vite, les enjeux et le vocabulaire de dénonciation et de délation sont utilisés alors que des enfants se retrouvent manipulés pour coopérer avec une hiérarchie hégémonique qui revêt la casquette de flic. Alors en Allemagne, c'est quand même très rapidement des pages sombres de l'histoire qui sont touchées du doigt. Et c'est notamment dans ce genre de contexte que cette professeure, un peu sur la réserve, va brandir en étendard les droits des élèves, leur droit au silence par exemple dans ce cas. Ça nous la rend particulièrement attachante très rapidement puisqu'on comprend vite qu'elle n'est clairement pas en accord avec ces techniques d'intimidation et de domination auxquelles ses collègues de l'administration font recours. Elle est du côté des élèves et nous du leur également. On sent le lien de confiance qui les unit d'ailleurs, telle une capitaine au mont capitaine. C'est en encourageant les élèves de sa classe à user de leur libre arbitre, en les poussant à être solidaires les uns des autres, qu'elle va se retrouver être aussi leur cible. Elle subit elle-même un vol et finit également pointée du doigt et malmenée par les élèves et parents d'élèves. Loin d'un cinéma social qu'on connaît et dont on a un paquet de films en France où en fait pousser la porte des institutions éducatives permet de prendre un peu la température d'où en sont les valeurs républicaines à l'école, la méritocratie, l'ascension sociale via l'échelle intégrative de l'éducation nationale. Là, ce que nous propose Ilker Çatak, c'est bien moins un film sur l'éducation que sur un état généralisé qui touche la société dans son ensemble. Un état de suspicion, de vérité complètement écrasée sous les hypothèses, les suppositions et les diffamations, ce qui confère vraiment un côté thriller paranoïaque à l'américaine à ce film. Le cinéaste lève le voile sur l'intériorité de cette grande machine qui est une école publique non située pour y jouer un drame civique qui la dépasse. L'environnement donné à voir s'apparente à un véritable dispositif carcéral et labyrinthique entre la salle de classe, le gymnase, la salle des profs, les toilettes et ces longs couloirs et halls d'escalier qui y mènent et où la caméra à l'épaule colle au personnage incarné par l'actrice Léonie Benesch qui porte elle-même le film sur les siennes de délicates épaules. L'espoir que l'on peut lire dans son regard au début est petit à petit teinté par la tournure que prennent les événements. Tout du long, on craint le pire, on se demande comment Frau Novak tient bon, à quoi elle tient et si elle ne va pas tout bonnement péter un plomb comme Isabelle Adjani dans La journée de la jupe. Le crescendo de cette tension qui nous met dans une attente constante nous fait inévitablement redouter une issue fatale, une résolution du conflit aussi macabre que celle que connaît L'éléphant de Gus Van Sant. Un thriller qui donc à cet égard ne manquera pas de surprendre et de questionner les notions d'intégration, d'intégrité et de civisme avec sobriété.
La salle des profs, film allemand qui concourt pour les Oscars, est en salle depuis le 6 mars.
Alors.
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec une interview. Ce sera celle d'Audrey Lamy pour une comédie française, Heureux Gagnant. Et sinon, toi, Guillaume, tu auras un film.
Oui, la dernière comédie de Thierry Cliffa, c'est Les Rois de la Piste.
Et toi, Sophia?
Je vous emmène donc en milieu carcéral avec Miss Hermanos.
À la semaine prochaine.